Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC. Merci d'être avec nous. 21h30 avec Fred Hermel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Les directs, toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne. 1-0 pour l'Italie. Sur la pelouse de la Hongrie, Raspadori a marqué pour l'été. Tiens, Julien, Stone s'est blessé, je crois. Il est sorti sur blessure, là, pour les Anglais. Je sais pas si
ouais,
t'as échappé.
À 37e minute. Si, non, je regarde le.
Pas grave, le match, c'est quoi, ça a l'air sérieux.
Si, ça a l'air d'être les ischios.
Oui.
Je sais pas comment tu peux te blesser, comment tu peux te claquer après 37 minutes de jeu, alors que j'imagine, enfin, ça faisait 37 minutes qu'il jouait, il était chaud. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on en revient encore à l'accumulation des matchs, aux blessures. On a vu c'est tellement ça. De blessures pendant cette trêve internationale, c'est assez incroyable.
Gibault, les espoirs face à la Belgique.
0-0 la demi-heure de jeu, c'est assez équilibré. On a vu un très bon coup franc d'Edzolofé qui passait pas loin de la, au-dessus de la barre transversale. Mais la tendance des deux côtés, c'est par exemple Doku qui veut trop en faire. Hein. Il fait 50 mètres, il peut la donner à droite à Ramazani qui est bien placé, il attend tout seul et c'est contré. Pareil, un Guiri qui en fait un peu trop. On la joue un peu trop perso. On veut faire l'exploit individuel. Ils sont jeunes, c'est normal, ils ont du talent. Mais pour l'instant, ça fait 0-0. Il reste un quart d'heure dans la première période.
Le Génération After, merci d'être avec nous. On finit sur le Qatar, messieurs. Je voulais quand même vous lire cette déclaration de la ministre des Sports française, savoir si elle vous fait réagir. Elle explique que les joueurs de l'équipe de France de football ne sont pas des hommes et femmes politiques. Ils sont là pour jouer, élever leur niveau de conscience. Ça me semble souhaitable, mais sans leur en demander trop. Bon,
j'aime pas beaucoup le mot sans leur demander trop. Je trouve ça un peu méprisant pour les joueurs.
Mais bon, bah écoute, voilà. Je sais pas si c'est un débat aussi chez vous, les gars, régulièrement. Est-ce que dans vos pays respectifs, on interroge les joueurs
non, mais en fait, il faut
sur
pas
la conscience politique ou sur une actualité?
Mais Nico, t'as raison sur la question. Le problème, c'est qu'on n'est pas. Je suis désolé, encore une fois, je vais parler comme un vieux con. Je suis né dans les années 70 où la politique représentait quasiment notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est de l'économie. Et donc, quand tu vois le produit de l'économie au niveau des joueurs. Un Paul Breitner, peut-être qu'à l'époque, il serait exprimé là-dessus. Dominique Rocheteau l'a fait 78. Ouais, et on a aussi je suis pas persuadé qu'aujourd'hui.
On est beaucoup politisé aujourd'hui.
Mais bien sûr. Enfin, c'est complètement c'est dramatique de mon point de vue, mais bon.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Polo. Et juste le truc, c'est qu'il faut rien leur demander, mais il faut pas les empêcher de prendre la parole, tout simplement.
Tout à fait, exactement. Messieurs, Benjamin Pavard, donc touchant, je le dis dans le journal L'Équipe ce week-end, qui parle pour la première fois de sa part de dépression pendant le confinement.
Le Parisien, je crois.
Moi, c'est L'Équipe, mon cher. Ah, le Parisien, alors L'Équipe a dû reprendre, mais moi j'ai. Ouais. D'accord, bon, peut-être, le Parisien. Ton ancienne maison d'ailleurs, c'est pour ça que tu le cites.
Voilà, c'est ça, faut défendre la famille.
Il dit, c'est la même maison en plus, le Parisien, L'Équipe.
Ah
en
non
vrai. Plus du tout.
Ah bah,
c'est
plus
fini,
longtemps.
T'as raison.
Ah ouais, non.
Mais il y a simplement 4 ans ou 5 ans, je crois.
Ouais. Oh, l'autre, là, simplement il y a 4 ans ou 5 ans. Alors, il dit, Benjamin Pavard, dans ma tête, ça n'allait pas. Au début, tu te dis que c'est rien, que ça va passer, mais quand tu vois que ça persiste, que tu vas à l'entraînement et que tu n'as pas la banane, il faut réagir. Il dit, je suis humain comme tout le monde, et même si j'ai une super belle maison avec une salle de musculation, j'avais besoin de contact avec les autres. J'ai masqué, ça qui est intéressant, j'ai masqué devant les autres, et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Bon, on savait, hein, Polo, qu'il avait vécu une période difficile, ouais. Benjamin Pavard, pendant le confinement.
Ouais, mais il n'avait pas parlé ouvertement comme ça. En plus, c'est un sujet, la dépression qui est très importante en Allemagne, parce qu'on a quand même eu un cas très très particulier qui est le suicide de l'ancien gardien de la sélection allemande Robert Henke en 2009, hein, qui a d'ailleurs favorisé l'arrivée de Manuel Neuer en équipe nationale, il ne faut pas l'oublier, en 2010 en Afrique du Sud. Et si tu veux, ce thème revient très souvent en fait aujourd'hui. On a un autre exemple des années 2000, évidemment Deisler, qui était évidemment un grand espoir du foot allemand, et entre ses blessures et ses dépressions chroniques, ben voilà. Mais par contre, tu te rends compte qu'au niveau des fédérations, au niveau des clubs, etc. Il y a peut-être des cellules, des choses comme ça, mais globalement, moi, je trouve pas que ça avance. Et puis, juste pour défendre entre guillemets le football, je rappelle quand même que la dépression, et je sais de quoi je parle, c'est l'une des pathologies les plus importantes, l'une des 10 plus importantes du 21e siècle, au minimum dans l'Occident. Et donc, c'est pas un truc qui est forcément réservé au sport. C'est un truc très important. Mais maintenant, savoir le pourquoi et les symptômes pourquoi ça arrive, c'est quand même, moi, j'ai pas niveau en tout cas pour répondre à ce genre de questions.
Vous avez beaucoup d'exemples dans vos championnats respectifs également, les gars. Julien, en Angleterre également, c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué.
Ouais, beaucoup évoqué. Danny Rose, par exemple, l'ancien international anglais de Tottenham, qui entre une période très compliquée à Tottenham avec des blessures, avec le fait qu'il jouait très peu, le suicide de son oncle, par exemple. Il y a souvent après le déclencheur peut être différent. Ça peut être un confinement comme pour Pavard, ça peut être une blessure, ça peut être voilà des problèmes personnels, familiaux ou de mariage.
Enfin, c'est voilà, pas toujours lié à la pression du haut niveau.
Exactement. Mais il y a de plus en plus de clubs ici en Angleterre qui font appel à des psychologues, mais qui avant venaient une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, ou alors quand les joueurs voulaient sur rendez-vous entre guillemets, qui maintenant sont là, sont des employés à temps plein des clubs et qui sont là tous les entraînements, tous les jours aux entraînements. Et si les joueurs veulent venir, la porte est toujours ouverte. Mais c'est vrai qu'en plus avec le confinement, je pense que ça a aggravé encore les choses et certains cas, c'est sûr. Et les Anglais, eux, là où les joueurs se battent le plus, c'est pour dire, mais c'est pas parce qu'on est millionnaire ou qu'on gagne 150 000 euros ou 200 000 euros par mois, ou même beaucoup plus pour certains, qu'on peut pas aussi avoir des sentiments et des problèmes d'ordre mentaux. Donc,
mais voilà. T'as raison, parce que c'est souvent une réaction de beaucoup de gens. Je vois sur Direct Studio un message, oh, la plonicheuse Pavard, millionnaire dépressif.
Bah oui,
voilà aussi pourquoi les footballeurs n'osent pas en parler. C'est pas uniquement pour cette raison-là, parce que c'est un milieu où il faut être très fort. Ne pas montrer faiblesse dans un univers hyper concurrentiel.
C'est la question de la performance.
Être dépressif, c'est pas être au niveau. C'est ça que ça veut dire.
Non, et puis surtout, on a.
En Espagne, juste quelques exemples, Fredo.
Ah oui, on a beaucoup d'exemples. On a deux très connus. Le plus récent, vous vous souvenez, c'est quand il était jeune, c'était Navas, Jesús Navas, qui faisait des crises d'angoisse parce qu'il habitait encore chez ses parents quand il devait dormir en dehors de chez ses parents. C'est-à-dire que il ne pouvait pas faire les stages de début de saison. Avec Séville, parce que dormir 2-3 nuits loin de chez lui, ça le rendait fou. Il ne dormait pas, il s'étouffait. Enfin, c'était très grave. Et d'ailleurs, à l'époque, on a parlé de Ramos, mais il y avait un doute pour l'emmener à je sais plus quelle Coupe du Monde. Je crois que c'est la 2014, il me semble que c'est la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Vicente Del Bosque se pose la question d'emmener Jesús Navas en se disant mais c'est compliqué, voilà, il était traité par un psy, etc. Et c'est Ramos en fait qui avait dit à Del Bosque, je vais m'occuper de lui. Et ça s'était plutôt bien passé, voilà. Et lui a fait une grosse thérapie pour pouvoir dormir en dehors de chez sa mère. Et puis on a un exemple qu'on a un peu oublié, c'est au tout début de Galactique, saison 2001-2002, un défenseur qui s'appelait Ivan Campo, vous souvenez, il n'était pas très beau.
Mais en Angleterre aussi, après quand il est venu à Bolton, c'est pareil.
Et Ivan Campo, en fait, il faisait des crises d'angoisse où il ne dormait plus. Et donc il pouvait pas être performant à l'entraînement parce que la nuit il a été absent pendant deux ou trois mois dans cette saison-là. C'était lié aussi à la pression qu'il y avait au Real Madrid. Le club venait, Florentino venait d'arriver à la présidence depuis un an. Il y avait l'arrivée de Figo, Zidane venait d'arriver. Les Galactiques étaient en train d'être construits et il y avait une pression de malade au Real. Et lui avait du mal à la
concurrence importante. En France, évidemment, on commence tout doucement à évoquer le sujet, mais bien plus tard que peut-être dans certains vos pays. Je sais qu'à Lens, on fait appel à un psychologue à disposition pour certains joueurs. Dans d'autres clubs de Ligue 1, c'est pas encore dit, c'est encore tabou. Est-ce qu'en Italie, on en parle, mon cher Johan? Et est-ce qu'il y a des structures d'aide psychologique, en tout cas?
Alors, on en parle de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui prennent la parole. Récemment, il y a Gianluigi Buffon qui a évoqué un passage très compliqué de sa jeune carrière où il avait eu des crises d'angoisse avant des matchs à tel point que il était plus capable de jouer en fait. Il y a un match où il a failli pas jouer tout simplement parce qu'il avait fait une crise d'angoisse, de panique avant la rencontre et où il disait en fait, on me voyait juste comme un super-héros. Tout le monde disait ah, faut que Buffon soit performant, mais personne s'intéressait à Gianluigi, à la personne que j'étais. Et il disait que s'il en avait pas parlé à un professionnel, etc., il est pas certain qu'il aurait réussi à s'en sortir. Donc, il y a le cas de Josip Ilicic aussi, post-Covid, lui aussi, où ça signifie quasiment la fin de sa carrière de haut niveau à Bergame, où c'était très compliqué de revenir. Il a essayé de revenir, puis il a replongé. On sait qu'à l'Atalanta, ils ont pris vraiment soin de lui, qu'ils ont évité de trop médiatiser, qu'ils l'ont vraiment aidé, etc. Mais la dépression, c'est compliqué à gérer et parfois, il faut beaucoup de temps, il faut plusieurs personnes, il faut... Donc des structures en elles-mêmes, j'ai pas vu de choses particulières et j'en ai pas à ma connaissance. Après que des personnes viennent dans les clubs, des psychologues viennent dans les clubs pour parler aux joueurs, etc. Ça oui, mais des choses de plus grande ampleur non. Et je sais pas si mettre un psychologue dans un groupe de 25 avec les entraîneurs aussi, etc. C'est suffisant en fait. C'est voilà et on connaît aussi le
La question de la précarrière, excuse-moi.
Ouais, bien sûr. Et ben justement, c'est ce que je voulais évoquer. Ça, on a parlé de la carrière.
C'est très brutal chez nous aussi, ouais.
Et les blessures, hein. En cas de blessure, comment le joueur est accompagné aussi, hein. Parce que moi, j'ai un exemple très marquant en Italie. Un jeune Suédois qui était au centre de formation de l'Inter. Et en fait, il est arrivé à faire une tentative de suicide après une lourde blessure. Parce que il était enfermé dans sa chambre au centre d'entraînement de l'Inter, il faisait rien, il voyait personne, il pouvait plus pratiquer son sport préféré, il était coupé quasiment de tout et il en est arrivé à faire une tentative de suicide et à l'Inter, donc c'était de mémoire au début des années 2000 ou fin 90, je m'en rappelle plus. À l'époque une psy à Milan lui avait dit mais je comprends pas pourquoi tu veux te suicider, t'as une belle bagnole, tu peux tu peux te taper qui tu veux, entre guillemets, voilà, je le dis de manière un peu crue, mais n'importe quelle fille, tu peux l'avoir dans ton lit, t'as une belle bagnole, t'as tout ce qu'il te faut pour être heureux. Et il se fait, bah non, je suis pas heureux. Donc, le cas de la blessure et le cas de l'après-carrière, c'est deux moments où les joueurs sont très vulnérables.
Polo, t'as beaucoup de cas également en Allemagne, hein, tu t'en as parlé régulièrement dans l'after, justement.
Évidemment, j'ai Robert Henke, Deisler, évidemment. Mais encore l'année dernière, on en avait parlé, on a même passé une vidéo de Max Eberl, le manager du Borussia Mönchengladbach, qui s'écroule, en fait, parce qu'il est complètement dépressif, qui se met à pleurer, qui ne peut même plus partir. Il est revenu dans le monde du football, mais, ce qui est vrai, c'est que, je pense que c'est lié. Enfin, moi, je suis pas un psychologue, hein, donc faut que les gars, faut aller chercher des spécialistes. Mais la question de la performance dans nos sociétés modernes, moi, me dérange toujours un petit peu parce que ils ont pas le droit d'échouer, ces gens-là. Or, ils sont humains comme tout le monde. J'enfonce des portes là, des portes ouvertes. Et donc, c'est toujours un petit peu délicat. Et moi, c'est pour ça que quand je vois ces performeurs qui peuvent craquer, j'ai toujours la question de pourquoi en faire des héros, pourquoi en faire des modèles de la nation. Alors qu'ils sont fragiles comme tout le monde, alors que leur état physique est souvent compliqué à la fin de leur carrière, l'état mental, bah parfois c'est délicat, etc. Il faut être, on sait que c'est un système de sélection extrêmement dur, aussi bien dans les centres de formation. Exactement. Moi, je me rappelle très bien avoir lu l'autobiographie de Manu Petit, etc. Comme j'ai vécu en internat quand j'étais gamin et que lui me disait qu'il avait été en internat tout seul au début. Je sais ce que ça veut dire de pleurer tous les soirs parce que t'es tout seul, t'as pas les parents, t'as ceci, t'as cela, et donc est-ce qu'on doit faire de joueurs de foot moderne qui est riche, qui représente qui en plus en France en tout cas vient souvent de milieux difficiles en pourcentage et qui réussit dans la société parce qu'il a de l'argent, ils sont contents. Est-ce que ça doit être aussi des modèles pour la nation, pour les gamins et tout ça? Moi, ça me dérange beaucoup parce qu'il y a quand même, on met beaucoup de poussière sous le tapis quand même.
Fredo, pour finir.
Johan a évoqué l'après carrière. C'est vrai que
la petite mort, hein, comme on l'appelle.
Oui, mais parce que pour en avoir parlé avec beaucoup de sportifs de haut niveau, en fait, il y a quelque chose qui les perturbe énormément une fois qu'ils arrêtent leur carrière. Et c'est là où ils ont besoin de se préparer. On décide pas du jour au lendemain d'arrêter quelque chose qui est votre vie depuis 20 ans, parce qu'ils démarrent très tôt. C'est l'organisation de la vie. C'est-à-dire que le plus dur pour la plupart de ces grands champions, c'est que jusqu'ici leur journée était organisée par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le club disait, tu viens à 8h et à 9h prendre petit déjeuner au club. Entraînement, t'es là.
Ils avaient un cadre quotidien.
Un cadre. L'avion, il va être à telle heure. Voilà, tout. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec beaucoup de temps et personne pour organiser ta vie. Et ça, par moment, mais très souvent, ça déboussole totalement ces grands sportifs qui étaient accompagnés au quotidien dans leur vie.
Voilà pour le sujet que vous vouliez évoquer, hein, les gars, aujourd'hui dans Génération After spécial Drôle de Dame. Dans un instant, Polo voudrait évoquer un grand film, Potato Fritz.
Potato Fritz.
Avec Paul Breitner. Allez, dans un instant, Daniel Riolo sera avec nous aussi. Il aura des questions et des remarques à faire après les matchs de vos sélections ce week-end. Gibaud, but des Belges face aux espoirs français.
Exactement, but des Belges avec un centre de Doku. Et c'est un joueur qui a marqué un but contre le Real Madrid. Mon cher Fred, c'est un joueur d'Almeria. C'est Larji Ramazzani.
Il est très bon d'ailleurs. Il n'était pas en Angleterre avant.
Si, avant il était à Manchester.
C'est ça. Ouais, c'est ça.
Et on toujours 1-0 pour l'Italie sur la pelouse de l'Angleterre.
1-0
pour les
Belges à une minute de la mi-temps.
Et 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne, c'est la mi-temps également en Ligue des Nations. Allez, on revient dans moins de 2 minutes. Restez avec nous sur RMC, 21h45.